Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi-du-bas podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Voilà, alors c'est parti.
C'est parti.
Donc bonjour Svenia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Avec plaisir.
Je suis hyper contente de t'avoir ici. Chez moi, en plus, tu t'es déplacée. Donc moi, ça fait longtemps que je te suis parce que je suis hyper passionnée du monde de la head tech. Et du coup, je voulais en faire profiter les auditeurs. Alors j'ai fait mes petites recherches pour creuser un petit peu ton parcours. Donc, pour les auditeurs, je vais te présenter. Tu me coupes si je dis des âneries. Tu as fait des études en sciences politiques à Berlin. Ensuite, tu as fait une école de commerce, HEC. Et ensuite, dans la vie professionnelle, quand tu t'es lancé dans la vie professionnelle, tu as d'abord cofondé les EdTech Tours en 2014. Tu as fondé LearnSpace en 2016. On reviendra en détail sur tout ça, mais tu as fondé LearnSpace en 2016. Tu es la cofondatrice de EdTech France, une association des entrepreneurs dans la EdTech. Tu as écrit un livre, Exploring the Future of Education, et tu es speaker, conférencière, expert dans les sujets de la EdTech. Déjà, est-ce que j'ai bien fait mes devoirs?
Très bien, très bien. Je vois que tu as bien regardé mon profil LinkedIn, c'est parfait.
Ouais. Et j'ai vu aussi sur Google qu'on te décrivait comme exploratrice.
Ouais.
Est-ce que ça te va, ça, comme mot?
Oui, tout à fait. C'est un mot que je me suis moi-même attribué.
D'accord.
Parce que je trouve ça cool comme titre, en fait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis exploratrice. Exploratrice des pratiques pédagogiques innovantes. Et ouais, c'est vrai que je passe quand même beaucoup de mon temps à voyager.
Ouais.
À explorer d'autres façons de faire, quoi. Explorer d'autres méthodes pédagogiques, à explorer les tendances, à explorer ce qui se passe dans différents marchés de l'éducation partout dans le monde. Donc oui, je trouve que ça me va bien.
D'accord, ok, parfait. Et du coup, pour les auditeurs peut-être qui ne connaîtraient pas, c'est quoi en fait la EdTech?
Alors la EdTech, en fait, c'est le numérique appliqué à l'éducation, la formation, l'apprentissage tout au long de la vie, en fait. C'est comment tu utilises n'importe quelle techno, low-tech ou high-tech, pour favoriser l'apprentissage, favoriser la transmission. Apprendre différemment et puis apprendre plus efficacement aussi, voilà. Donc c'est tout ça.
Toi, qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie, en fait, de la EdTech?
Bah, en fait, c'est plus l'éducation, l'innovation dans l'éducation que la EdTech. Pour la EdTech, c'est juste un outil. Enfin, la tech, c'est juste un outil. Donc c'est même si j'ai fait pas mal de recherches sur cette thématique là et que on me reconnaît comme quelqu'un qui s'y connaît, en fait. J'aime pas le mot experte parce que on n'est jamais expert de rien. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses sur un sujet, mais pour atteindre le stade d'expert, enfin voilà, il faut que tu aies passé ta vie à travailler un sujet. Et donc oui, je m'y connais dans la tech, j'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet, mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est l'innovation éducative dans le sens très large du terme. Et la tech, c'est un outil qui peut favoriser, en fait, cette innovation là. Et donc, mais c'est pas le seul. Parfois, la tech, c'est contre-productif. Parfois, ça a un effet totalement délétère sur l'apprentissage. Mais parfois, ça peut avoir un très fort impact. Et donc, moi, je m'intéresse à quand ça a un impact. Je regarde des initiatives, les bonnes pratiques qui existent sur ce champ-là. Mais parfois, je trouve des initiatives où il n'y a pas du tout de technologie. Et j'en parle quand même parce que c'est hyper intéressant. Et la tech n'est pas là ne s'ouvrira pas le monde, quoi, entre guillemets. Donc,
en fait, c'est vraiment les innovations pédagogiques, éducatives, ouais, au sens large. Ouais. Je reviens à ma question, mais toi, qu'est-ce qui t'a emmené dans cette voie vraiment de l'innovation pédagogique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah, de te consacrer à ça?
Alors, bah, c'est plusieurs choses. Déjà, j'ai une mère prof, donc forcément, voilà, elle me parlait beaucoup de son métier tous les soirs quand elle rentrait du travail. Elle m'a toujours fascinée. Elle me parlait de ce qui était génial. Elle me parlait aussi des freins, en fait, hein, clairement, de son institution et de la lourdeur, en fait, administrative de son institution. Et puis j'ai aussi un petit frère qui, lui, n'a pas du tout fité avec l'école, avec le moule dans lequel on essaie de mettre tout le monde, tous les enfants aujourd'hui, parce qu'il était très dyslexique et que du coup, il a beaucoup souffert de l'école. Et du coup, en voyant ça, alors que moi, j'avais aucune difficulté et ça roulait, je me suis dit, mais en fait, ce système, il est clairement pas fait pour la diversité, quoi. Il est fait pour... c'est un moule, et donc si tu rentres à peu près dans le moule, si tu essayes de t'y accommoder, tu peux réussir. Sinon, bah, t'es laissé pour compte, quoi. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué énormément dans mon enfance, cette injustice. Et donc, j'avais envie aussi, depuis toujours, de m'y consacrer, quoi, d'essayer de voir comment on peut faire autrement. Et en école de commerce, j'ai rencontré Audrey, une camarade, avec qui je me suis super entendue et qui avait ce projet de partir dans le monde entier, aller voir d'autres systèmes éducatifs, aller voir ce que la EdTech, justement, pouvait apporter à l'éducation. Et à l'époque, EdTech, personne ne savait ce que c'était. Enfin, vraiment, on était en 2014, c'était le tout début. Et on s'est dit, bon, on va lancer ça. Alors qu'on était deux étudiantes, on ne connaissait rien au sujet encore. Et on a levé des fonds, on s'est débrouillé, on allait chercher des sponsors pour financer notre tour du monde. Et on est parti. C'était juste. Ouais, c'était une aventure absolument folle, quoi. On a vu des choses incroyables partout dans le monde et on est revenu ici en France avec des étoiles dans les yeux et avec cette envie de partager tout ce qu'on avait vu, partager ces bonnes pratiques et montrer un peu ce qui se fait à l'international.
Ça a duré combien de temps, ce tour du monde?
Ce tour du monde, il a duré à peu près 6 mois.
Ok.
Ouais, on est parti dans 7 pays. C'était très intense, on a rencontré plus de 500 personnes, on a fait des interviews, on a pu savoir quoi en faire, c'était très très riche et on a écrit un rapport qui est sur notre site edtechtours.com et ce rapport il raconte un peu tout ce qu'on a vu depuis innovant partout en fait dans le monde.
Tu as fait plusieurs tours après, il y en a eu combien? 3?
Ouais, il y en a eu 3 là, parce que du coup j'ai continué, après c'est 7 pour mes pays, je me suis dit mais en fait il y a tellement de choses à voir il faut que, et puis surtout après notre rapport a été vachement lu et tout, alors qu'on était vraiment personne, enfin au début on débarquait sous cette scène, tu vois, et quand on a vu qu'il y avait des milliers de downloads, que tu vois les gens redemandaient, on s'est dit je me suis dit il faut qu'on continue. Mm-hmm. Et donc j'ai continué toute seule à faire ces différents tours. Audrey a trouvé un job qui la passionnait, donc elle est partie, et c'est vrai que oui, j'ai fait un tour d'Europe où j'ai vu 8 pays d'Europe. C'était assez fascinant. J'ai écrit le livre que tu citais juste après ce tour, et là je suis partie en tour d'Afrique il y a quelques mois, et donc je vais sortir un rapport sur ce tour là en septembre, à la rentrée.
Ok. Et du coup, pourquoi tu penses que ça a passionné?
Je pense qu'en fait on n'avait pas il y avait encore personne qui avait cette vue international, en fait. C'est vraiment, en fait, l'éducation, c'est un sujet très chauvin, tu vois. C'est un truc très franco-français, et même dans tous les pays, évidemment. C'est quelque chose qui est très culturel, très historique, qui a pour plein de raisons. Et donc, c'est vrai que, en fait, avoir cette vue internationale, cet œil un peu différent, ce regard différent sur tout ce qui se fait ailleurs, ça passionne, en fait. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Et j'avais envie de continuer à partager ces bonnes pratiques du monde entier, quoi.
Ok. Et donc, ce que tu disais, et quand on s'est parlé aussi la dernière fois, c'est donc ta mère était prof, tu as eu un frère qui a eu des difficultés à l'école. Donc, c'est vraiment aussi cet environnement familial et éducatif qui t'a mené sur cette voie. Ouais. Ce que tu me disais aussi, c'est que toi, tu as eu une éducation un petit peu particulière, enfin, on va dire... en particulier, c'est peut-être un gros mot, mais tu as été dans une école qu'on appelle Steiner.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, oui.
Qu'on comprenne.
J'ai fait mon école primaire dans une école publique, ensuite j'ai fait mon collège dans une école Waldorf Steiner. Et les écoles Waldorf, c'est en fait des écoles qui sont beaucoup plus. Déjà qui. qui sont en contrat avec l'État, hein, donc elles suivent quand même, tu vois, le programme officiel, mais dans une pédagogie totalement différente, beaucoup plus axée sur l'individu, sur l'enfant lui-même, sur ses capacités, sur le faire grandir, et donc avec beaucoup aussi d'art, de chant, de danse. Enfin, on était beaucoup dans l'expression vraiment créative à travers tous ces chants créatifs. Et du coup, oui, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup marqué de voir une autre façon de faire, quoi. Tu vois, après l'école publique, tu arrives dans cette école-là qui est très différente, où vraiment il y a un vrai lien entre les enseignants et les élèves. Et voilà, c'est comme une grande famille, quoi. L'école est une grande famille, tu as une classe par niveau, donc il y avait un CM1, un CM2, un 6e, un 5e. Et c'était une grande famille avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué, quoi. Quand je suis arrivée de l'école publique, j'avais commencé ma 6e dans un collège public et je suis arrivée là et je me suis dit, mais waouh, enfin, c'est radicalement différent. Une bienveillance entre les élèves, une entraide. En fait, voilà, c'est des choses qu'on leur apprend dans cette école dès le départ, quoi. Tu vois, à se comporter avec respect, bienveillance, à aider les autres et à pas être individualiste et dans une compétition, mais vraiment au contraire de s'entraider et d'aller plus loin ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée, quoi, clairement.
Ouais, parce que dans les écoles publiques, au contraire, c'est vrai qu'on veut toujours pousser l'élève à être le meilleur, à faire pas forcément mieux que les autres, mais voilà, à se détacher.
Oui, c'est ça, le système des notes est très, très, très présent, tu vois. Donc, clairement, c'est un système qui est très axé sur, qui va avoir la meilleure note, qui va avoir la meilleure moyenne, qui va avoir... Et je trouve que c'est dommage parce que ça crée une sorte de compétition entre les élèves. Chez Waldorf Steiner, il y a quand même des notes, mais elles sont moins fréquentes. C'est beaucoup plus aussi de commentaires du prof. Ça compte beaucoup plus, en fait, dans la mentalité des élèves. Et ça fait, je pense, ça fait une vraie différence. Mais voilà, je sais pas pourquoi ça m'a choquée à ce point-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les élèves que je côtoyais étaient totalement différents, quoi. Vraiment totalement différents.
Tu penses que ça t'a mieux préparé, on va dire, à l'avenir, appréhender le futur?
Ouais, je pense. Je pense qu'il y a plein de compétences que tu apprends dans des écoles comme ça, que tu n'apprendrais pas dans une école publique, quoi, parce que tu as beaucoup de voyages de classe, tu as tous les ans des dates clés pendant l'année où tu vas faire la grande randonnée, où tu vas faire... et tout ça avec tes profs, enfin, il y a beaucoup de sorties, en fait. On te pousse à aller dehors dans la nature, à explorer, et puis évidemment on pousse ta créativité à fond, quoi. Je veux dire, on avait, je crois, par semaine 8 heures d'art et de chant par semaine, et donc oui, je pense que clairement ça aide à développer plein d'autres compétences sociales, émotionnelles, créatives, que tu développerais pas forcément dans notre école, tu vois. Et typiquement, par exemple, en quatrième, pendant un mois et demi, l'école s'arrête, mais en plein milieu de l'année, pour qu'en fait, tous les quatrièmes, enfin, il n'y a que des quatrièmes qui arrêtent d'aller en cours, pour qu'ils préparent, en fait, une pièce de théâtre. Donc, soit ils écrivent la pièce de théâtre, parfois ils ne l'écrivent pas, mais du coup, ils pensent toute la scénographie, ils font tous les décors, tous les costumes, et tout ça pendant un mois et demi, où vraiment c'est une préparation intense, cette pièce de théâtre. Mmh. Et avec tous les profs vraiment qui sont impliqués et qui t'aident à bien apprendre ton rôle, à prendre la parole, à bien jouer, etc. Ou alors à écrire une partie de la pièce. Enfin, c'est vraiment génial, ce genre de projet qui reste gravé dans ta mémoire à vie et qui t'apporte énormément de compétences qui sont totalement différentes de ce que tu aurais appris en classe, assis derrière ton bureau 8 heures par jour, quoi. Donc,
on vous apprend. Je sais pas si on vous apprend à être créatif, mais en tout cas, on attise votre curiosité. Moi, j'ai eu une éducation, on va dire, un peu standard, hein, école publique, tout le long de mon parcours. Et c'est vrai que l'art, le sport, les choses comme ça, c'est vraiment des matières secondaires.
Ouais.
Mais que ce soit à l'école ou même à la maison, hein, les parents, si tu as un 20 sur 20 en art plastique, bon, ils s'en fichent un peu, quoi. Ce qui est important, c'est maths, français, histoire, géo, quoi.
Ouais.
Et toi, tu penses que c'est l'avenir de l'école, toi qui t'y connais un peu, promouvoir ces autres compétences, la créativité, l'intelligence émotionnelle, le social, le vivre ensemble. Ça, c'est des choses qui sont importantes à amener à l'école.
Complètement. Et au-delà de changer tout le programme et de mettre 8 heures d'art par semaine, ce qui sera impossible, au-delà de ça, je trouve même dans des pratiques pédagogiques différentes, tu peux transmettre plein de choses. C'est-à-dire que même dans un cours de français, si tu fais des projets, que pendant 2 heures, tu vas faire un projet où tu vas mettre tous tes élèves en groupe, où ils vont devoir écrire une nouvelle ensemble de façon collaborative, tu vois. Tout, en fait, là, dans la pédagogie même qu'emploie un professeur, je trouve que tu peux retrouver énormément de compétences du 21e siècle qui sont développées par là, en fait. Donc, c'est vrai que c'est, pour moi, tout est une question de pédagogie et de posture aussi de l'enseignant par rapport à ses élèves. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines d'enseignants qui font les choses différemment, qui m'ont énormément inspirée. Et clairement, même en suivant le système, enfin le programme scolaire à la lettre, tu peux faire des trucs super innovants et permettre à tes élèves de développer plein d'autres compétences.
Et ces profs-là, tu les as vus en France notamment ?
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup en France. En France, il y a une association qui s'appelle Edu Voices, qui regroupe en fait un peu tous les profs curieux, innovants, qui ont envie de faire les choses différemment. Et cet asso est juste génial. Et donc, il y a plein de profs dans cet asso qui sont de vraies inspirations, et à l'étranger évidemment aussi. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette communauté en fait qui existe en France. Aujourd'hui, si t'es un prof et que tu te sens un peu démuni face à toutes ces innovations, tous ces changements, tu peux rejoindre une association avec d'autres enseignants qui vont pouvoir t'apprendre des choses. Je trouve ça génial.
Ok. Et j'avais aussi une question. Si demain j'étais un enfant, enfin un parent, on va dire plutôt, et j'ai pas la chance de mettre mon enfant dans une école avec des professeurs justement innovants, avec des innovations pédagogiques dont tu parlais. Comment je fais pour préparer mon enfant justement à ces compétences du 21e siècle, à la créativité, à l'intelligence émotionnelle ? Est-ce que tu as des conseils à donner aux parents ?
Alors déjà, les profs innovants ne sont pas que dans des écoles privées, Steiner, tout ça, pas du tout. Ils sont partout, vraiment partout. Donc déjà, je conseillerais vraiment aux parents d'aller voir un peu l'équipe pédagogique de l'école et de discuter un peu aux journées portes ouvertes ou que sais-je avec l'équipe pédagogique d'une école, d'un collège, d'un lycée, donc pour voir un peu quelles sont les pédagogies utilisées. Et si je vois que il n'y a pas vraiment d'innovation et que ça reste un peu l'école standard, les cours standards, effectivement, j'irai plus dans l'après scolaire, quoi. J'essaierai en fait de permettre à mon enfant de faire des expériences extrascolaires qui vont le changer un peu. Et je pense qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont organisées. Il y a des colonies de vacances beaucoup plus innovantes qui mettent l'enfant dans la posture vraiment de doueur, où vraiment ils ont des challenges à résoudre. Et puis ils ont une semaine pour le faire. Souvent, c'est des challenges des SDGs qui sont les Sustainable Development Goals de l'ONU. Donc tu as un challenge sur le futur de l'éducation, un challenge sur le futur l'écologie. Et donc c'est les faire travailler sur ces thématiques-là, donc des grands défis mondiaux. Et aujourd'hui, je ne vais pas en citer, mais tu as plein de startups aussi qui proposent des mercredis après-midi de faire des cours aussi, des cours de code, de robotique, d'apprendre à créer, son robot, à piloter un drone, etc. Enfin, je trouve que c'est important de leur faire voir aussi, au-delà du gadget, de l'aspect gadget que ça peut avoir, de leur faire voir d'autres choses. Parce que clairement, ils n'apprendront jamais à manipuler toutes ces technologies à l'école. Et je pense que c'est important aussi qu'ils sachent comment ça marche, quoi, au-delà d'être un utilisateur passif de technologie, en mode je scroll toute la journée sur Snapchat et sur Instagram et puis je regarde des vidéos de petits chatons, quoi. Comment tu fais pour rendre ton enfant acteur du numérique? Et donc là, c'est important de faire créer des choses et de faire comprendre qu'en fait le numérique, ça se crée et qu'on peut en faire des choses très bien. Mmh. On peut en faire des choses très utiles pour le monde. Et donc, ouais, y a plein de programmes après école sur le numérique et créer des applications, apprendre à coder, etc. Et toujours garder en tête, je pense, ce côté très impact. Enfin, je pense que, enfin, moi, c'est un truc qui me touche énormément. Clairement, j'aurais envie de transmettre à mes enfants ce côté impact. En fait, tu peux avoir un impact même si tu as 8 ans, que tu apprends à coder, voilà, et que c'est très basique pour l'instant. Sache qu'avec cette technologie, tu pourras potentiellement avoir un impact dans le futur si tu le souhaites, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que à l'école, en tout cas, c'est peut-être très personnel ce que je vais dire, mais c'est que justement, on ne nous apprend pas vraiment cet impact qu'on peut avoir. Je trouve qu'on nous donne 2-3 métiers qui existent et on nous laisse nous débrouiller avec ça. Est-ce que tu penses, enfin moi en tout cas c'est ce que je pense, que l'école nous prépare mal au futur, enfin en tout cas nous prépare mal à trouver notre voie, dans le sens où que ce soit moi, mes camarades de classe, mon entourage, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin des études et on se dit ok, bon, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais.
Donc on trouve une voie un petit peu au hasard ou alors une voie qu'on dit royale sous la pression un peu sociale. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Est-ce que tu penses que l'école nous prépare mal au futur, en tout cas à trouver notre voie, à essayer de chercher l'impact qu'on peut avoir sur le monde et comment on fait justement pour remédier un petit peu à tout ça?
Alors oui, je pense que il y a des initiatives déjà qui existent et qui font un job extraordinaire. Par exemple, Bâtisseur de Possible, qui a pris la méthodologie Design for Change, qui a été créée par une entrepreneure indienne absolument incroyable, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, Bâtisseur de Possible, c'est typiquement, ils vont dans les écoles, dans des écoles primaires, et ils demandent aux enfants, en fait, lors d'une journée, d'un challenge, de résoudre un des grands challenges qu'ils voient dans leur école, dans leur communauté, dans leur ville, voilà, quelque chose qui les a marqués, qu'ils aimeraient en fait résoudre, quoi. Et du haut de leurs 8 ans ou leurs 7 ans, ils développent pendant toute une journée, voire 2 jours, avec la méthodologie du design thinking, des solutions à ces problèmes-là. Et il faut aller voir sur leur site parce qu'ils font des vidéos assez incroyables qui montrent la créativité juste incroyable de ces enfants-là. Qui en une journée trouvent des solutions à comment résoudre le problème des déchets. Typiquement, il y a des gens qui ne savent pas trier, qui le font mal ou qui ne le font pas parce que voilà, ils ont pas le temps ou ils sont pas vraiment acculturés à ça. Et donc voilà, il y avait un groupe qui avait travaillé là-dessus. Et donc comment on fait pour vraiment permettre aux gens de mieux trier, voilà, etc. Et ils avaient trouvé plein de solutions hyper hyper intéressantes. Ils étaient allés proposer à leur mère d'ailleurs. Et donc c'est vrai que c'est ce genre de méthodologie, ce genre de projet qu'il faut faire aux enfants de l'école primaire, quoi, parce que c'est juste hyper important, parce que voilà, il y a une créativité quand tu es enfant qui est débordante, qui n'est pas encore, tu vois, un peu supprimée par l'école, par la société, etc. Et donc c'est vrai que il faut le faire. Après, c'est vrai que trouver sa voie, évidemment, c'est pas facile. Et je pense que l'école serait un peu dépassée si ça devait être sa mission première, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, trouver sa voie, ça va bien au-delà de trouver un métier. C'est se trouver soi-même, en fait. C'est se connaître soi-même. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense pas que ce soit la vocation de l'école. Je pense que c'est une de ses vocations, mais qu'elle peut pas le faire parfaitement, quoi. Et donc, c'est vrai que tu vois, l'école ne peut pas non plus tout porter. C'est ça, oui, que je pense aussi, parce que tu vois, sinon, on passerait toutes nos journées à l'école, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle a une vraie responsabilité, mais c'est vraiment en changeant pour moi les pratiques, encore une fois, les pratiques pédagogiques, qu'on va aussi pouvoir permettre plus de liberté, en fait, à l'école, et qu'on va pouvoir permettre à ces jeunes, à ces élèves, de trouver potentiellement leur voie dans une des activités qu'on leur fera faire. Enfin, en fait, il faut vraiment les rendre beaucoup plus actifs, quoi. Enfin, aujourd'hui, je pense que le vrai problème de l'école, c'est la passivité, en fait, la passivité des élèves, quoi. C'est je vais à l'école, mais je suis statique, quoi. Je reste assise sur ma chaise 8 heures par jour. Voilà, parfois j'ai la chance d'avoir des profs qui me font faire des activités, des trucs où je bouge, voilà, mais rien que le fait d'être assis toute la journée, c'est extrêmement mauvais déjà pour ton organisme. Et en plus, voilà, c'est pas comme ça qu'on apprend, quoi. Enfin, pour moi, c'est, on peut plus rester dans un modèle statique comme ça. Et en faisant bouger les enfants, ou les élèves, ou les jeunes, en les faisant faire des projets, en les faisant se faire s'exprimer, exprimer leur créativité, et tu vas vraiment pouvoir atteindre quelque chose de beaucoup, enfin, de différent. Et ça, pour moi, ça permettra beaucoup plus de remise en question et de réflexion de la part des élèves sur, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, c'est difficile d'avoir ce genre de réflexion quand t'es, ouais, quand t'es statique, quoi, quand t'es passif et quand t'es pas vraiment engagé dans ton apprentissage.
Donc voilà, c'est ça, c'est, comme tu disais, c'est apprendre à se connaître pour savoir dans quelle voie on veut aller. Et via tous ces projets, toutes ces initiatives pédagogiques, ou même pas forcément pédagogiques, je pense qu'on peut faire ça aussi à la maison, voir ce qui touche l'élève, ce qui, enfin, quand je dis l'élève, ça peut être même adolescent, adulte, hein, je suppose. Voilà, qu'est-ce qui nous touche vraiment et pourquoi on a envie de se dépasser, avoir un impact, etc. C'est hyper intéressant. Donc, et essayer de le faire dès le plus jeune âge, parce que c'est vrai que, bah voilà, comme tu disais, quand on est enfant, on est hyper créatif, on est hyper imaginatif, on est hyper curieux. Ouais, on a plein de choses à apprendre et c'est vrai que c'est dommage de rester derrière une chaise et derrière un bureau. Donc,
c'est sûr. Non, et à ce sujet, sur la connaissance de soi-même et l'orientation, il faut que tu parles à Hector Ballas de Impala, parce que lui, il a une vision assez incroyable sur ce sujet et il a créé un outil qui, justement, un outil d'orientation qui te montre pas les fiches métiers, traditionnelles, mais qui va vraiment essayer de te faire prendre conscience de qui tu es vraiment, quoi. Donc, vraiment d'aller vers de la connaissance de soi avant de faire, avant de faire des choix sur ton avenir, quoi. Et ouais, il a une vision vraiment passionnante sur ce sujet.
Ok, donc Hector Ballas de Impala.
Exactement.
Bah, je l'inviterai. Oui. J'espère qu'il viendra. Je dirais qu'il est un peu obligé parce que Zvenia l'a recommandé.
Exactement.
Ok, bah, merci beaucoup. J'hésiterai pas à le contacter. Pour revenir un petit peu sur toi, sur ton parcours, quand tu as fait tes tours du monde, t'es allé découvrir un petit peu ce qui se passait ailleurs en termes d'innovation pédagogique. Et en rentrant en France en 2016, tu as fondé LearnSpace. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est LearnSpace ?
LearnSpace, c'est un hub d'innovation pour l'éducation et la formation. En gros, on a tout un réseau de startups qu'on accompagne, dans les startups qui travaillent sur ces sujets-là, éducation, formation, edtech, qu'on accompagne. Et ensuite, on a des clients, donc c'est beaucoup d'écoles, d'universités, d'entreprises aussi qu'on accompagne sur la transformation un peu de leur façon d'apprendre, d'enseigner, de former. Et donc, on intervient beaucoup sur des sujets d'innovation pédagogique, sur des sujets d'organisation apprenante. Clairement, comment tu fais pour que la formation, par exemple, dans une entreprise, ça ne soit pas juste 3 jours par an où tu pars dans un château forme en séminaire, mais que ce soit vraiment tout au long d'année beaucoup plus agile et que ce soit vraiment, enfin, que ça fasse partie de ta culture de ta boîte, quoi. Et donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi. Donc voilà, on a vraiment 2 activités principales. On accompagne des startups et on accompagne ensuite, plus en mode conseil, des clients dans le supérieur donc des clients corpo. Ouais.
Ok, ça marche. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller accompagner ces startups, de la EdTech, innovation pédagogique, formation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de les accompagner en fait?
C'est vraiment à l'issue de ce tour d'Europe, deuxième tour d'Europe que j'ai fait, que j'avais envie vraiment d'accompagner des entrepreneurs, parce qu'en fait, j'en ai rencontré tellement, des gens vraiment passionnants qui étaient dédiés à la cause éducative. Et en Europe, il n'y avait pas beaucoup de structures d'accompagnement. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup par rapport aux US, à la Chine, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il faut créer quelque chose ici en France qui accélérerait des boîtes partout en Europe. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'existait pas et que j'avais envie de créer, quoi. Et donc voilà. Et c'est vrai que nous, on avait une vraie expertise, un vrai réseau qu'on peut mettre à disposition de ces boîtes-là. Et donc voilà. Et puis c'est vrai qu'on voit vraiment la valeur ajoutée qu'on peut avoir pour des entrepreneurs, quoi.
D'accord. Et toi, du coup, c'est quoi ton rôle là-dedans?
Bah, mon rôle là-dedans, c'est surtout de faire des intros, quoi. C'est vraiment d'écrire des mails, de faire des intros. En gros, voilà, mes entrepreneurs m'appellent, me disent, voilà, j'ai besoin de rencontrer tel investisseur, j'ai besoin de rencontrer telle école, j'ai besoin de rencontrer voilà, telle personne, et moi, je me débrouille pour voilà, pour faire l'intro, même si je la connais pas, j'aurai forcément une relation en commun, et donc voilà, moi, mon rôle, c'est vraiment de créer des liens, créer des ponts entre différents acteurs, différentes personnes, pour qu'il y ait de la valeur qui se crée, en fait. Donc, ouais.
Ok.
Un peu le rôle de... Ouais, un peu un job de connecteur, quoi. C'est vraiment... Ouais.
Je suppose que tu connais plein de monde dans le monde, bah, justement, de l'éducation, et ouais, ça leur permet d'avoir accès à tout ça. Et si on revient vraiment au moment où tu as créé, donc, je sais pas, c'est une société, une société, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu as été accompagnée?
C'est super simple, en fait. Ouais. Créer une boîte, tu vas sur Legal Start pour ne pas faire de la pub. Voilà. Mais en gros, il y a des super plateformes qui te permettent de créer des boîtes hyper facilement. Moi, je ne supporte pas la paperasse. Je ne supporte pas l'admin. Je suis voilà, j'ai vraiment comique. ça me donne des boutons. Donc non, vraiment j'ai laissé Legal Start tout faire pour moi, et okay, ça s'est super bien passé. Donc vraiment c'est hyper simple, quoi. Puis après, voilà, tu choisis ton comptable, et puis tu te laisses faire aussi un certain nombre de choses. Et donc voilà, moi je touche presque pas l'admin, sauf pour faire ma compta, parce que quand même que je fasse ma compta de temps en temps. Mais sinon ouais, non, vraiment c'est très simple. Et ça va vite, ça va très vite.
Et du coup, tu étais toute seule dans l'aventure? Tu as fondé cette boîte toute seule?
À l'époque, on était deux. Okay. À l'époque, on était deux avec Adam. On a monté ça tous les deux. Et puis finalement, bah, comme tu sais, beaucoup de cofondateurs, quand tu as la vision qui diverge un peu, tu te sépares, quoi. Mais ça a rien de grave. Après, moi, ce que je conseille toujours, c'est mieux si ça arrive tôt que tard, clairement, parce que sinon ça pose pas mal de problèmes. Mais vraiment, à ce stade, voilà, on s'est séparés, et ça s'est bien fini. Enfin, voilà, il n'y avait pas de grand chamboulement. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu portes un projet depuis longtemps. Moi, ça faisait plus longtemps que je portais le projet, et Adam est arrivé un peu plus tard. Et c'est vrai que toujours compliqué d'être sur la même page, ouais, tu vois, d'être sur la même longueur d'onde quand quelqu'un rejoint un projet alors qu'il est déjà bien pensé par sa fondatrice initiale. Donc c'est un peu notre cas, et c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, mais encore une fois, voilà, on a pris la décision assez rapidement, et donc il n'y a pas eu de problème.
Ok, parce que souvent on conseille Enfin, moi, tu vois, qui m'intéresse vachement au monde entrepreneurial, on conseille tout le temps de s'associer, de pas être seul, toujours être à deux, que ce soit pour gérer la pression, les problèmes, pour la complémentarité des compétences. Mais je me dis, justement, si ça fit pas, dans le sens où, que ce soit en termes de vision, en termes de, bon, bah voilà, moi, j'ai mon idée précise, j'ai pas forcément envie de contraindre quelqu'un là-dedans, dans ma vision. Ouais. Donc, est-ce que toi, ça a été... bon, vous étiez deux à la base, mais est-ce que c'est problème maintenant d'être seul?
Pas du tout, en fait. En fait, mieux vaut être seul que mal accompagné, quoi. Ouais. Ça vaut pour tout dans la vie, très clairement. Et donc, c'est un peu le discours des investisseurs, tu vois, de dire, nous, on veut des vrais teams et tout, machin. Ouais, mais bon, je veux dire, tu sais, tu peux être seul, solo founder, et ensuite avoir une vraie team derrière, de gens que tu rémunères, qui bossent pour toi, quoi, tu vois. Et ça peut très très bien marcher comme ça. Je connais plein d'entrepreneurs absolument brillantissimes qui ont commencé seuls, et qui plus tard, mais bien plus tard, ont trouvé leur père, quoi. Claude Thérosier de Magic Makers, une entrepreneur assez exceptionnelle, qui bien plus tard a trouvé son cofondateur, tu vois. Mathieu Nebra d'Open Classrooms, qui a commencé seul aussi, et qui plus tard s'est associé avec Pierre. Je veux dire, il y a plein d'exemples qui montrent qu'en fait, cette règle, elle est un peu bullshit, quoi. Parce qu'en gros, pour moi, le plus important, c'est de monter une boîte et de la faire grandir, et de prouver que tu peux y arriver, quoi. Que tu sois seul ou à deux, en soi, on s'en fout. Enfin, vraiment, on s'en fout. Par contre, derrière, c'est hyper important de savoir monter une team et de pouvoir vraiment gérer des gens pour aller encore plus vite et encore plus loin, quoi. Mais ouais, enfin, moi aussi, j'avais pas mal de pression au début, tu vois. Je me disais, mais oui, sans ce cofondateur, ça marchera pas et tout. Et je pense que non, enfin, c'est aujourd'hui, je sais clairement que ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ton exécution, c'est ce que tu arrives à faire, en fait. Voilà.
Ok, donc un conseil pour si les auditeurs ont envie de monter leur boîte, c'est qu'il faut pas avoir peur de le faire tout seul.
Exactement. Par contre, il faut être très bon et puis
tu peux après bien s'entourer, mais même
évidemment tu peux t'entourer de, tu vois, moi j'ai plein de mentors, j'ai des gens que je vois tous les mois qui me conseillent sur plein de choses, qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Et clairement, voilà, ça, tu vois, ça peut faire partie de ton équipe au tout début, tu vois, d'avoir un board de mentors qui t'aide à te faire grandir et à évoluer, quoi. Et ça peut suffire. Donc voilà, pour moi, il faut juste prouver ton modèle, prouver que ta boîte peut marcher, prouver que tu peux en faire un business, prouver que tu peux le scaler. Et clairement, ça, tu peux le faire tout seul ou à deux, mais voilà, pour moi, c'est que de l'exécution.
S'entourer donc de mentors, je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est comment ça se passe ta relation avec ces mentors? C'est des gens que tu connaissais, que tu as approché? Comment ça s'est fait?
Ouais, c'est des gens avec qui j'ai eu un super bon feeling, que j'ai rencontré un peu par hasard à plusieurs reprises et à qui au début c'était pas forcément tu vas pas voir la personne et leur dire c'est juste que tu peux devenir mon mentor, quoi. Ouais. Mais ça se fait naturellement, tu vois, tu te vois assez régulièrement pour des cafés, pour des verres et tu parles de ton business et ils te donnent du feedback et moi j'en ai deux comme ça et ils sont juste extra, quoi. Extra, ils m'ont fait vachement grandir, vachement évoluer et donc ouais, c'est vachement précieux. Ouais, donc ouais, ça c'est un vrai conseil, c'est trouvez-vous des mentors, des gens que vous admirez, qui sont plus forts que vous et qui pourront vous apporter plein de choses.
Et qui peuvent partager un petit peu aussi leur parcours. C'est des gens qui ont monté des boîtes aussi?
Ouais, complètement. Ouais.
Ok, donc ont un peu le parcours et qui peuvent faire un peu un retour d'expérience et te conseiller des choses.
Exactement.
Okay. Exactement. Si tu as monté ta boîte en 2016, donc avec Adam, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Si tu avais des choses à refaire, c'est un peu pour donner des conseils aux auditeurs, ouais, qui montent leur boîte ou qui veulent monter leur boîte.
Ouais.
Si tu avais des choses à faire différemment, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à la Svenia de 2016
ne pas avoir peur de se lancer dans le grand bain, en fait. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai un peu évité, si tu veux, la case créer un produit, un vrai service et le vendre, quoi. Enfin, vraiment avoir une activité commerciale. Parce que bon, après, moi, c'est vrai que j'ai un business model qui est très différent de la MH et des business models. Parce qu'un accélérateur, déjà, à la base, c'est extrêmement complexe de trouver un business model pour un accélérateur de start-up. Et donc, pendant longtemps, j'ai essayé de trouver un modèle. Et au début, j'étais vraiment sur un modèle à la Techstars où, en fait, j'avais des sponsors, des grands groupes qui sponsorisaient l'accélérateur. Mais, enfin, aujourd'hui, je me dis, mais, enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens parce que, enfin, c'est tu es du jour au lendemain, tu peux perdre ce sponsor-là et tu meurs, quoi, clairement, tu vois. Je veux dire, le mec peut te dire, j'ai plus de ligne de budget pour ça, désolé, salut. Et en fait, dès le début, j'aurais dû penser à une activité commerciale, tu vois, enfin, un vrai business, quoi, clairement, parce que c'était pas un vrai business, quoi, vu que c'était sponsorisé, d'avoir un vrai business avec une activité commerciale et vraiment de sauter dans le grand bain et de mouiller un peu, et ouais, de proposer d'autres services commerciaux que je pourrais vendre à d'autres personnes que des startups qui débutent et qui n'ont pas d'argent, tu vois. Si je vais le refaire, j'aurais commencé cette activité conseil beaucoup plus tôt, parce que voilà, ça nous permet de grandir et de pouvoir avoir un impact encore plus fort, quoi. Et donc ouais, mais c'est vrai que en vrai, l'entrepreneuriat c'est je trouve pas le mot français, a journey, donc
ouais, un voyage,
un parcours, ouais, tu un vois parcours. Donc moi aujourd'hui je me dis oui, la semaine de 2016, j'aurais bien aimé lui dire ça, mais en vrai c'est un parcours, j'aurais pas, en fait c'est, tu changes tellement pendant ce parcours, ce voyage là, que en 2016 j'aurais pas été capable d'écouter, enfin d'entendre ça,
ouais, tu vois. T'étais pas dans cette optique,
donc il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte qu'en fait, c'était ça le modèle, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai trouvé et je pense que ça va super bien marcher et j'ai vachement confiance. Mais c'est encore une fois un parcours et c'est fait de rencontres, c'est fait de gens qui vont te marquer, qui vont te, tu vois, en une phrase, te faire tilter sur un truc et te dire, mais ouais, pourquoi je fais pas ça? Et donc, tout ça, bah, ça prend du temps, ouais. Du coup. Ça prend vraiment du temps. Donc, moi, ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est vraiment d'y aller. Ouais, vous allez pivoter 5 fois ou 10 fois ou que sais-je, et c'est pas grave, tu vois, c'est ça, enfin, ça fait partie du voyage, quoi, tu vois, c'est pas une route droite, voilà, mais ça va vraiment être un chemin hyper sinueux, tu vas revenir en arrière, tu vas revenir en avant, c'est ça qui est magique aussi, c'est que ça change tout le temps. Et qu'il n'y a pas vraiment de constante, à part évidemment ta vision et là où tu as vraiment envie d'aller. Et c'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, quoi. Moi, aujourd'hui, je pourrais pas faire autre chose, si tu veux. Parce que j'ai cette liberté, je sais que, voilà, je viens de loin et j'ai quand même, voilà, accumulé plein d'expériences aujourd'hui et je me dis, bah, ouais, c'est cool ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Grâce à toutes ces rencontres, tous ces événements qui ont marqué un peu ma vie ces trois dernières années, quoi.
Ouais, donc en fait, faut pas forcément attendre d'avoir la bonne idée, le bon business model, le bon partenaire, etc. Faut se lancer. On a une idée, on se lance, on pivotera, on se cassera les dents peut-être, on fera des super rencontres, etc. Et vraiment, voilà, on apprend au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est un peu ça.
On apprend par le faire, quoi. Donc vraiment, vraiment, il faut arrêter de vouloir avoir le produit parfait, la strat parfaite avant de se lancer. Il faut vraiment y aller et t'apprends sur le tas, quoi. C'est ça qui est magnifique aussi avec l'entrepreneuriat, c'est que ouais, tous les jours, c'est t'apprends, quoi. Et peut-être que ça va se casser la gueule, peut-être que finalement, ça va être un échec total, mais ça va marcher. Mais c'est pas grave, t'auras appris énormément, tu pourras recommencer et pas faire les mêmes erreurs. Enfin, du coup, il faut vraiment se lancer le plus tôt possible, selon moi. Enfin, vraiment.
Dès qu'on a une idée, on se lance, quoi.
Voilà. Non, mais vraiment, mais presque, quoi. Je veux dire, faut être dans le faire. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est l'exécution. T'as une idée, tu l'exécutes. Tu essayes pas de penser l'idée pendant 4 mois avant de te lancer. Pour moi, ça a pas grand sens.
Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont peur, en fait. Forcément qui ont peur parce que c'est l'inconnu, etc., mais qui ont plutôt peur de l'échec. On va dire, voilà, j'ai une idée. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Au final, là, dans ce que tu racontes, c'est peut-être qu'il y a une version de ton idée qui va pas marcher. Mais c'est pas grave, tu pourras itérer, tu pourras faire de nouvelles choses. Et puis, voilà, ça t'apprend énormément. C'est ce que tu dis, il y a pas d'échec en soi, quoi.
Il y a pas d'échec en soi, vraiment. Et je pense que la peur de l'échec, c'est un truc typiquement qui est très, très français. Parce que, voilà, on nous a appris souvent que échouer, c'était pas bien, c'est négatif. Alors que, au contraire, t'as besoin de l'échec pour déjà apprendre continuellement. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Ça, aujourd'hui, c'est prouvé par la recherche. Et en plus, l'échec, au-delà de ça, il est hyper bénéfique, quoi, parce qu'il te permet une remise en question qui n'aurait pas été possible sans, quoi. Donc, oui, c'est vrai que si tu es quelqu'un qui a vraiment peur de l'échec, qui a besoin d'un certain confort, etc., peut-être que l'entrepreneuriat, c'est après tout pas fait pour toi, tu vois. Mais oui, parce qu'il faut avoir un certain goût pour le risque, quoi. Tu vois, moi, typiquement, je suis parfois beaucoup trop dans le risque. Tu vois, je prends des risques de fou et je me pose aucune question et je me dis, allez, on fait ça, on va voir, quoi. Et parfois, oui, il faut être un peu plus précautionneux, mais il faut quand même aimer le risque. C'est certain, parce que vraiment, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas comment ton marché va réagir à ton produit, tu sais rien au début. Donc, il faut aimer un peu ce sentiment-là, quoi.
Après, moi, je pense qu'on a tous une propension à avoir peur de l'échec, mais voilà, après, savoir à quel point on a envie de, voilà, prendre les risques qui sont un peu inhérents, forcément, à l'entrepreneuriat, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et finalement, si tu te poseras la question de pourquoi on a peur de l'échec, en fait, c'est parce qu'on a peur du regard des autres, en fait, sur cet échec. Mais en vrai, si tu te détaches de ça, que tu prends vraiment de la hauteur et que tu te fiches complètement du regard des autres et que tu fais vraiment ça pour toi et pour ton expérience personnelle, professionnelle, ça passe beaucoup mieux, quoi. Enfin, aujourd'hui, enfin, les gens s'en foutent, tu vois. Genre, tu testes un truc, ça foire, bah, c'est pas grave. Enfin, ouais. Je veux dire, ils sont pas là à t'attendre, à regarder si tu vas. Enfin, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, il faut être aussi un peu moins égocentré et de se dire, mais, enfin, le monde ne m'attend pas, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est. Donc, ouais, non, cette notion d'échec, elle est. Enfin, je la trouve assez, assez particulière, quoi. Mais oui, c'est sûr qu'elle existe.
Ok, du coup, c'est hyper intéressant. Tu as donné plein de conseils pour les entrepreneurs ou même les gens qui ont envie de se lancer dans un projet ou qui sont dans leur métier actuel. Tu parlais de il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et après, de toute façon, c'est un voyage. Donc, on apprend au fur et à mesure et on peut pivoter, on peut faire autrement. On apprend de ses rencontres, se détacher du regard des autres. C'est hyper important, je trouve, dans ce que tu dis. Et je pense que ça vaut même au-delà du métier, ça vaut pour les études, etc. Enfin, je trouve qu'on nous met une pression et on se la met nous-mêmes, en fait. Parce que des fois, ça vient de nulle part. Hein. C'est même pas des parents, on se met une pression, c'est pas trop d'où ça vient. Et voilà, c'est tous ces conseils qui sont hyper précieux. Parce que, donc là, on arrive vers la fin de notre échange. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer ?
Je crois que j'ai dit la majorité. Enfin, je pense qu'il y a une chose que j'ai pas encore dit, c'est qu'il faut avoir confiance, en fait. C'est-à-dire que à la base, je trouve, pour l'entrepreneuriat, si tu n'as pas confiance en toi et si tu n'as pas confiance en l'avenir, ça va être compliqué. C'est-à-dire que je pense que c'est essentiel de travailler sur soi avant de se lancer. Même si tu peux aussi l'apprendre pendant, mais c'est essentiel de travailler sur soi parce que ça joue, pour moi, ça joue un rôle essentiel, en fait, ta posture par rapport à l'avenir, par rapport à toi, par rapport à, tu vois. Et si tu as des doutes sur toi, si tu as des doutes sur ta capacité à justement aller de l'avant, ça va pas le faire, quoi. Et donc, moi, j'ai vraiment ce conseil sur travailler sur vous d'abord, quoi, et gagner cette confiance en vous. Alors, il y a pas de secret sauce, et je pense pas qu'il y ait de recette magique pour ça, mais je pense que c'est essentiel. Et clairement, c'est pas un cliché de dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont un peu trop d'ego, mais je trouve que l'ego est important quand même quand on entreprend. Alors, évidemment, il faut le doser,
oui.
mais c'est hyper important d'être sûr de toi, en fait. C'est hyper important d'être sûr de toi, de croire en l'avenir. Alors, je n'arriverai pas à le théoriser, à savoir d'où ça vient, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai jamais douté, tu vois, ni de mes capacités, et j'ai une confiance mais inconditionnelle en l'avenir, quoi. Je ne sais pas du tout où je serai, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de savoir si ma boîte va marcher ou pas, etc., mais j'ai super confiance, donc du coup ça m'aide à avancer tous les jours, quoi. Je doute presque jamais, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider, en fait, à avancer et justement à le faire sans peur.
Ouais. De toute façon, on peut pas prévenir l'avenir, donc
ça, c'est sûr.
Autant avoir confiance,
autant y aller. C'est clair.
Autant y aller et avoir confiance, et
c'est clair.
On verra bien ce qui se passera.
Ouais.
Ok, bah merci beaucoup pour tous ces conseils, Zenia. Est-ce qu'il y a quelque chose, un film, un livre, une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré, que tu voudrais partager avec l'auditeur et avec moi, qui pourrait nous servir ?
J'ai pas préparé cette question. Ouh là là.
Tu peux dire Joker. T'as déjà répondu à beaucoup de questions.
Non, mais quand même, c'est... non, mais là, dernièrement, les choses qui m'ont inspirée, je peux en parler. Alors, ça n'a peut-être un peu rien à voir avec les sujets d'entrepreneuriat et d'éducation, mais quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est un documentaire qui s'appelle Our Planet, Notre Planète, sur Netflix. Et c'est un documentaire de 6 ou 7 épisodes qui te montre, en fait, la beauté de notre planète. Et sans être dramatique, tu vois, sans partir dans le drama total, on est en train de la détruire, etc. Juste, il te montre la beauté pure de notre planète, avec toutes ses espèces, sa faune, sa flore. Et puis à la fin, ils te disent quand même, en fait, tout ce que vous venez de voir, voilà, il n'y aura plus que tant de pourcents dans quelques années, etc. Mais sans être dramatique, et ça, j'ai vraiment adoré. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à notre planète. Et du coup, j'ai pris plein de décisions un peu drastiques sur plein de choses de mon mode de vie. Et du coup, je le conseille vraiment à tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, au futur de la planète. Et c'est absolument sublime. J'ai jamais vu des images pareilles, en fait.
Mais esthétiquement, c'est
ouais,
super.
C'est absolument magnifique. Donc, ça s'appelle Our Planet. Et ensuite, voilà, sinon, en termes de bouquins,
c'est déjà pas mal, hein, Our Planet.
Ouais, voilà.
On a noté.
Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que des bouquins, j'en ai vu pas mal, mais ouais, vraiment, je saurais pas en choisir un là.
Ça marche.
Ouais.
Pas de soucis. Bah, Our Planet, je note. En plus, moi, j'adore ce genre d'émissions, séries, je sais pas trop comment on appelle ça.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'on se rend pas assez compte, en fait, de ce qui se passe sur la planète, même de comment elle est constituée, etc. Je trouve ça hyper intéressant.
C'est fascinant.
Et en plus, si ça peut nous rendre un peu plus responsables, je pense que ça peut être que mieux. Pour finir, si on a envie d'en savoir plus sur toi, si on a envie de te contacter,
ouais.
On fait comment ?
Bah,
un mail, réseaux sociaux,
ouais,
c'est plutôt sur quoi ?
Je suis beaucoup sur Twitter, donc voilà, un tweet, un message privé, sur LinkedIn aussi,
okay.
Voilà, m'envoyer un message sur LinkedIn, et puis voilà, et je crois qu'il y a, il y a le mail de ma boîte sur le site aussi, donc
okay.
Si vous voulez m'envoyer un mail, mais ouais, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux,
okay.
Donc ne pas hésiter, voilà.
Ok, ça marche, ben, je mettrai ça en description de l'épisode si on a envie de te contacter. Bah merci beaucoup Svenia, c'était
avec
un vrai
plaisir.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions, et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.